Escalader collines les plus hautes avec Carole. Vu le temps, nous n'ont pas encore attaqué pic vraiment élevé pour l'instant. Ascension difficile et effort pénible cause altitude, mais cela vaut la peine. Chaîne assez dense, pas moyen voir autre côté. Plus haut sommet dépasse Himalaya, semble assez bizarre. Apparemment, ardoise précambrienne avec d'autres strates visibles à l'œil nu. Me trompais en parlant de volcanisme. S'étend à perte de vue. Au-dessus de 7000 mètres, plus trace de neige. Curieuse formation sur pente des plus hautes montagnes. Vaste bloc carré avec côtés parfaitement verticaux et formes rectangulaires évoquant des remparts, comme antiques châteaux asiatiques en haut des pics escarpés des tableaux de Röhrich. Très impressionnant de loin. Volé près de certains. Carole les croit composés de petites pièces distinctes, mais c'est sans doute l'érosion. Plupart des arêtes effondrées et lissées par millions d'années de tempêtes et de changements climatiques. Certaines parties, surtout en hauteur, semblent faites roches plus claires que strates visibles sur pente, donc origine évidemment cristalline. Nombreuses ouvertures de cavernes, certaines étrangement régulières, carrées ou semi-circulaires. Devait venir faire recherche. Cru voir rempart au sommet d'un des pics. Altitude apparente 10 à 12 000 mètres. Suit à environ 7 000 mètres dans abominable vent glacial. Siffle et résonne entre les pics en traversant passages et cavernes, mais sans danger pour le vol.
Pendant encore une demi-heure, Leica continuait à nous mitrailler de commentaires et exprima son intention d'escalader à pied certains des pics. J'ai répondu que je le rejoindrais dès qu'il pourrait nous envoyer un avion et que Peabody et moi allions chercher comment faire pour l'essence, c'est-à-dire comment et où répartir nos réserves pour compenser ce changement apporté à notre expédition. De toute évidence, les opérations de forage de Lake, tout comme ses activités aériennes, nécessiteraient d'alimenter la nouvelle base qu'il comptait établir au pied des montagnes, et il serait peut-être impossible de poursuivre le vol vers l'est avant la fin de la saison. C'est pourquoi j'ai appelé le capitaine Douglas pour lui demander de décharger autant d'équipements que possible des bateaux et de l'apporter au camp sur la barrière montagneuse au moyen du seul attelage de chiens que nous lui avions laissé. Ce qu'il nous fallait établir, c'était une voie directe à travers cette région inconnue située entre Lake et le détroit de McMurdo. Un peu plus tard, Lake me rappelait pour dire qu'il avait décidé d'établir son camp à l'endroit où l'avion de Moulton avait dû faire un atterrissage forcé et où les réparations avaient déjà avancé. La couche de glace était très fine à cet endroit. La terre sombre était visible ça et là, et il comptait faire quelques forages et dynamitages avant de lancer toute expédition en traîneau ou toute escalade. Il nous parlait de l'ineffable majesté de ce spectacle et des étranges sensations qui s'emparaient de lui alors qu'il se trouvait à l'abri de vastes sommets silencieux dont les pentes s'élevaient à la verticale tel un mur au bord du monde. Les observations au théodolite faites par Atwood avaient accordé aux cinq plus hauts pics une altitude entre 10 et 12 000 mètres. Les vents balayant constamment le terrain inquiétaient Lake, car ils suggéraient l'existence occasionnelle de bourrasques d'une violence dépassant tout ce que nous avions rencontré jusque-là. Son camp se trouvait à environ 8 km de l'endroit où les premiers contreforts montagneux s'élevaient abruptement. Je pouvais presque sentir une certaine inquiétude implicite dans ses discours qui parcouraient tout de même 1000 kilomètres de vide glacial pour nous parvenir. Je sentais qu'il nous priait de nous hâter, qu'on en finisse le plus vite possible avec cette nouvelle étrange région. Il allait maintenant se reposer après cette journée de travail ininterrompue dont la vitesse, l'acharnement et les résultats avaient été exceptionnels. Au matin, j'ai échangé une conversation tripartite avec Lake et le capitaine Douglas, chacun étant dans sa propre base lointaine. Nous avons convenu qu'un des avions de Lake viendrait à notre base chercher Peabody, les cinq hommes et moi-même, plus toute l'essence que nous pourrions emporter. Pour le reste du carburant, il était possible d'attendre quelques jours, selon notre décision à propos de notre voyage vers l'est, car Lake en avait suffisamment pour se chauffer et effectuer les forages. Finalement, il faudrait réapprovisionner notre ancienne base sud, mais si nous remettions à plus tard le voyage vers l'est, elle ne nous servirait pas avant l'été prochain et, entre-temps, Lake devrait envoyer un avion en reconnaissance pour explorer une voie directe entre ces nouvelles montagnes et le détroit de McMurdo. Peabody et moi nous sommes préparés à lever le camp pour une période plus ou moins longue. Si nous passions l'hiver en Antarctique, nous pourrions sans doute voler directement de la base de Lake à l'Arkham sans y repasser. Certaines de nos tentes coniques avaient déjà été renforcées par des blocs de neige durcis, et nous avons alors décidé de faire un village esquimau permanent. Grâce à une réserve extensive de tentes, Lake avait avec lui tout ce qui lui serait nécessaire, même après notre arrivée à sa base. J'ai envoyé un message radio disant que Peabody et moi serions prêts à partir vers le nord-ouest après une journée de travail et une nuit de repos. Notre labeur, cependant, s'est nettement relâché après 16 heures, car c'est alors que Lake s'est mis à nous envoyer des messages des plus extraordinaires et surexcités. Sa journée de travail avait commencé de façon peu engageante, puisqu'une reconnaissance en avion des surfaces rocheuses presque entièrement exposées avait démontré une absence totale de ces strates archéennes primordiales qu'il cherchait et qui formaient une bonne partie des pics colossaux se dressant à une distance si proche du camp. La plupart des roches entreaperçues semblaient être des grès jurassiques et comanchiens, et des schistes permiens et triassiques, avec ça et là un affleurement d'un noir brillant suggérant un socle d'ardoise dure. Lake, dont tous les plans reposaient sur la découverte d'échantillons vieux de plus de 500 millions d'années, en était découragé. Il devenait clair pour lui que, s'il voulait retrouver la veine d'ardoise archéenne d'où provenaient les étranges empreintes, il lui faudrait faire un long voyage en traîneau pour gagner les pentes escarpées de ces montagnes gigantesques. Néanmoins, il avait décidé de faire quelques forages sur place pour contribuer au programme général de l'expédition. Il installa donc la foreuse et chargea 5 hommes de la faire fonctionner, pendant que les autres finissaient de monter le camp et de réparer l'aéroplane endommagé. La roche la moins dure en vue, un grès à 300 mètres du camp, avait été choisie pour le premier prélèvement, et la foreuse fit des merveilles sans qu'il soit nécessaire d'utiliser les explosifs. 3 heures plus tard, alors que l'opération prenait de l'ampleur, on put entendre les cris des assistants préposés à la foreuse, et le jeune Jedney, qui faisait office de contremaître, fit irruption dans le camp pour faire part de la nouvelle.